Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité de ce jeudi 10 mars 2022. Au moins 1200 civils ont été tués par l'armée russe dans la ville de Mariupol, d'après la mairie qui dénonce un génocide. Hier, c'est un hôpital pédiatrique qui a été bombardé par les Russes. En Australie, le gouvernement fédéral, critiqué ces derniers jours pour la lenteur de l'aide apportée aux victimes des inondations, promet aujourd'hui des moyens financiers supplémentaires. Et puis, aux États-Unis, l'homme qui s'était fait greffer un cœur de porc génétiquement modifié est décédé. Je vous le disais dans les titres, plus de 1200 civils auraient été tués dans la ville ukrainienne de Mariupol depuis le début de l'invasion russe. Ce sont des chiffres qui ont été communiqués par la mairie de cette ville qui parle de génocide. Mariupol, en tout cas, continue d'essuyer de nombreux bombardements. Hier, des projectiles russes se sont ainsi abattus sur un hôpital pédiatrique. Sur place, l'envoyé spécial de RFI, Vincent Sourillot.
Effectivement, le complexe hospitalier n'est plus qu'une ruine. Les bâtiments ont été soufflés. On n'y voit plus que des lits éventrés, des feuilles de papier et des morceaux de verre au sol. Et ces images choquantes, capturées dans la foulée de ce bombardement, des femmes enceintes, hagardes, au visage ensanglanté, portées à bout de bras par les secouristes ukrainiens. Certaines de ces femmes ont été évacuées sur des brancards dans un paysage totalement dévasté, celui de Mariupol, qui vit un enfer depuis une semaine de siège mise en place par l'armée russe. Il n'y a plus de vivres sur place. Plus de médicaments, plus d'électricité, plus d'eau courante, plus de gaz. Les habitants en sont réduits à couper des arbres pour faire du feu et à faire fondre la neige pour s'hydrater. Et des photos circulent, des photos de fosses communes creusées à la hâte pour enterrer les victimes des frappes aériennes. Il y aurait à ce jour, Alexandra, plus de 250 000 personnes toujours prises au piège à Mariupol.
Et ces combats entre forces russes et la résistance ukrainienne mettent également à mal la sécurité nucléaire. C'est ce qu'a expliqué la compagnie d'État ukrainienne chargée du nucléaire, justement, actuellement dans l'incapacité de réparer une ligne électrique qui connecte la centrale de Tchernobyl. Le risque, c'est celui d'une fuite radioactive. Et ce risque est réel, d'autant que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a rappelé que les réserves en diesel qui alimentent actuellement la centrale ne permettent à la centrale de fonctionner que pendant une durée de 48 heures. De son côté, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a elle tenu à dédramatiser. Elle assure que Tchernobyl et la centrale de Zaporojia, dont l'armée russe a pris le contrôle il y a quelques jours, elle assure que sur ces deux sites, il n'y a aucun risque d'incident nucléaire.
The situation at the Chernobyl and Zaporizhia nuclear power plants is being controlled by Ukrainian specialists and Russian militaries. Background radiation is under control on both plants. Facilities at the Zaporizhia nuclear power plant work in normal technological mode. There are no risks for civilians living in neighboring areas.
En attendant, plus de 2 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre. Ils se rendent principalement en Pologne, mais également en Hongrie ou encore en Moldavie. À Chișinău, la capitale de ce pays, l'envoyé spécial de RFI, Oriane Verdier, nous raconte comment sur place se déroule l'accueil des réfugiés.
Ici, chacun met la main à la pâte, apporte des dons ou propose des hébergements. La Moldavie, c'est un peu le petit frère de l'Ukraine. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup de Moldaves me l'ont présenté. C'est d'ailleurs le pays frontalier où les Ukrainiens trouvent une langue commune, le russe, pour discuter. Ici, la majorité de la population parle en effet russe et roumain. Mais derrière ce chaleureux élan de solidarité, on ressent également une population sous le choc. Il y a bien sûr la compassion avec les Ukrainiens qui arrivent ici et y livrent des témoignages terribles. Mais il y a également la proximité proximité de la guerre, certains habitants de Chisinau affirment entendre les bombardements sur la ville portuaire d'Odessa. Et surtout, cette nouvelle guerre réveille des traumatismes anciens chez les Moldaves. Juste après la dissolution de l'URSS, une guerre a éclaté ici entre séparatistes pro-russes et Moldaves. Aujourd'hui, une bande de territoire le long de l'Ukraine a déclaré unilatéralement son indépendance. Des armes et des militaires russes y sont présents. Ici, on craint donc de bientôt passer du statut d'hôte à celui de réfugié. Oriane Verdier, Chisinau, RFI.
Après s'être rendu dans la ville de Lismore hier, dans le nord de la Nouvelle-Galles-du-Chute, pour constater l'étendue des dégâts causés la semaine dernière par les inondations, le Premier ministre Scott Morrison est aujourd'hui dans le sud-est du Queensland. Ces derniers jours, le gouvernement a débloqué 25 millions de dollars supplémentaires destinés aux victimes de ces inondations, mais beaucoup d'entre elles disent n'avoir toujours rien reçu et par ailleurs ne pas pouvoir compter sur autre chose que la solidarité des membres de leur communauté. Face à ces critiques, c'est le trésorier du gouvernement Josh Frydenberg qui a assuré sur la chaîne ABC que le gouvernement fédéral faisait pourtant tout ce qui était en son pouvoir. On l'écoute.
But there's going to be a massive rebuilding task, and we'll be there with the people of Queensland, with the people of New South Wales, and we've already announced very significant payments for primary producers, for small businesses.
Ces inondations, en tout cas, resteront dans l'histoire comme l'une des plus graves catastrophes naturelles de l'Australie. C'est l'avis rendu par le Climate Council dans un rapport qu'il vient de publier. Dans ce rapport, il explique que le réchauffement climatique a joué un rôle central dans ces événements météorologiques qui les a, pour être plus précis, qui les a amplifiés, ces intempéries, et rendu et donc ces précipitations encore plus violentes qu'elles ne l'auraient été. Ces intempéries, en tout cas, on sait qu'elles vont coûter extrêmement cher, plus de 3 milliards de dollars d'après les compagnies d'assurance. Et si les inondations sont la raison principale du déplacement de Scott Morrison dans le Queensland, le Premier ministre a également annoncé ce matin le recrutement de 18 500 personnes supplémentaires pour renforcer les rangs des forces armées, mais aussi des services de renseignement. C'est une augmentation de 30% des effectifs d'ici à 2040. L'objectif présenté par Scott Morrison serait de permettre à l'Australie de mieux faire face aux futures menaces. Lundi dernier, dans une adresse au Lowy Institute, Scott Morrison avait évoqué, je cite, « un arc d'autocratie » composé de la Chine et de la Russie qui chercherait à remettre en cause l'ordre mondial et à le remodeler à son image. En tout cas, ces recrutements supplémentaires vont coûter cher, 38 milliards de dollars d'après Scott Morrison.
And with this investment, we're going to make sure that the Australian Defence Forces are a big contributor for generations to come as more and more people take up those careers in our defence forces.
Et en parlant du Lowy Institute, où donc s'est exprimé lundi Scott Morrison, aujourd'hui et au moment même où je vous parle, c'est au tour du leader des travaillistes, Anthony Albanese, qui vient d'y présenter les grandes orientations du Parti travailliste concernant la politique étrangère et notamment les questions de défense. Il a ainsi, par exemple, expliqué que les trois piliers de la politique en matière de sécurité nationale du Parti travailliste étaient les suivantes: défendre l'intégrité territoriale de l'Australie, protéger la souveraineté politique de la nation des pressions extérieures et enfin promouvoir la prospérité économique de l'Australie et sa stabilité sociale. Très rapidement, il s'est également exprimé à propos du fameux pacte AUKUS. Il a expliqué que le Parti travailliste soutenait totalement cette alliance avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. En revanche, il a estimé que la façon dont la rupture du contrat avec les Français portant sur des sous-marins conventionnels avait été une catastrophe. Il a par ailleurs également indiqué qu'il comptait, s'il était élu, s'entretenir le plus rapidement possible avec tous les services de sécurité australiens pour estimer les menaces liées non pas à des forces extérieures, mais au changement climatique. La Corée du Sud a un nouveau président. Il s'agit du candidat de l'opposition Yoon Suk Yeol. Il vient donc de l'emporter de justesse. Et c'est lui qui va donc diriger la quatrième économie d'Asie. Le président élu Yoon est issu du parti du pouvoir du peuple. Et c'est donc sans surprise qu'il a estimé que le résultat de ces élections n'était pas une victoire pour lui personnellement, mais pour le peuple sud-coréen.
The competition is over for now, and I think we should all work together to become one for our people and our country.
Yoon Suk Yeol prendra ses fonctions au mois de mai prochain, et ce, pour un mandat d'une durée de 5 ans. En France, le premier tour de l'élection présidentielle se déroulera dans pile un mois, le 10 avril prochain. Le président sortant, Emmanuel Macron, a pour sa part exclu l'idée de participer à un débat avant ce scrutin avec les autres candidats. En revanche, certains d'entre eux comptent bien en découdre. Ce sera le cas ce soir du candidat d'extrême droite Éric Zemmour et de la candidate des Républicains Valérie Pécresse dans un débat qui sera diffusé donc ce soir sur TF1 et LCI. Tous les deux sont actuellement en perte de vitesse dans les sondages. Ils se disputent par ailleurs le même électorat. Ce sera la première fois qu'ils débattront ensemble. Une tentative pour eux de relancer leur campagne, alors que, si on en croit justement les derniers sondages et les intentions de vote, ni l'un ni l'autre pour l'instant ne sera qualifié pour le second tour. On écoute les explications de Julien Chavanne pour RFI.
Dans sa vie d'avant, Éric Zemmour était tous les soirs à la télévision et il a déjà affronté Jean-Luc Mélenchon devant les caméras. Alors c'est sûr, Valérie Pécresse ne part pas favorite. Après avoir beaucoup hésité, elle a finalement décidé de monter sur le ring. Mais son entourage est lucide. Elle n'a plus rien à perdre, explique Cash, un membre de son équipe de campagne. Tout le monde s'attend à ce qu'elle se fasse exploser. Si elle résiste, elle a déjà gagné, ajoute un autre soutien. Pour fragiliser Éric Zemmour, Valérie Pécresse devrait jouer la carte femme face à un candidat accusé d'agression sexuelle par 8 personnes. Le candidat de Reconquête, lui, cherche toujours à séduire l'électorat de droite en présentant Valérie Pécresse comme la copie d'Emmanuel Macron. Les deux candidats jouent gros ce soir. À 31 jours du scrutin, la moindre erreur compte triple. Un dérapage handicaperait encore plus Éric Zemmour. Une mauvaise prestation plomberait davantage Valérie Pécresse.
On se rend maintenant aux États-Unis où David Bennett est décédé. Cet homme malade du cœur avait été le premier greffé avec un cœur de porc génétiquement modifié. Cette expérience, loin d'être considérée comme un échec, aura permis à cet homme de vivre 2 mois supplémentaires, et ce alors qu'il était condamné. Pour RFI, Frédéric Genot.
Pour les chercheurs, ce qu'il faut retenir de cette expérience, ce n'est pas la mort de David Bennett, mais le fait qu'il a vécu 2 mois avec un cœur de porc génétiquement modifié. Et de plus, pendant plusieurs semaines, il n'y a eu aucun signe de rejet. Le patient a été condamné. Son état ne permettait pas d'envisager une transplantation cardiaque classique. Il était totalement volontaire pour cette greffe expérimentale. Son fils s'est d'ailleurs félicité de ses précieuses semaines passées en famille grâce à cette opération. Mohamed Mohyoudine se dit optimiste. Le directeur scientifique du programme de xénotransplantation de l'hôpital universitaire du Maryland estime que cette opération va fournir des données très intéressantes pour les prochaines xénotransplantations, autrement dit, les greffes à partir d'une autre espèce animale. Le cochon est depuis longtemps considéré comme une source potentielle de greffons pour l'homme. Si l'on peut modifier ses organes pour éviter les rejets par l'organisme, les xénogreffes suscitent donc un immense espoir. Aux États-Unis, 110 000 personnes attendent actuellement une greffe d'organes.
Et pour terminer ce bulletin d'information, on jette maintenant un œil à la météo du jour. Alors on commence par souhaiter bon courage à ceux qui se trouvent actuellement à Perth sous un soleil de plomb aujourd'hui et où la température va monter jusqu'à 37 degrés. Le soleil est également au rendez-vous à Adélaïde, mais il est dans cette ville bien plus supportable. Il y fait 26 degrés, 21 degrés à Melbourne sous les nuages ce jeudi, 23 degrés à Sydney où le temps est au sec malgré quelques nuages également, mais globalement on est sous un beau ciel bleu. Des averses en revanche sont attendues aujourd'hui à Brisbane avec 28 degrés au thermomètre et puis 33 degrés attendus à Darwin où il y aura beaucoup d'humidité dans l'air.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.